Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de la capitale américaine, mercredi 19 juin 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir, au Niger, un assaut contre un poste de police à l'entrée de Niamey fait 2 morts parmi les forces de l'ordre. Dans le centre du Mali, des attaques dans 2 villages ont fait près de 40 morts. En République centrafricaine, les prochaines échéances électorales sont fixées à la fin de l'année prochaine. Et puis, la campagne bat son plein en Mauritanie avant la présidentielle de samedi prochain. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Deux membres des forces de l'ordre ont été tués et 2 autres blessés hier soir au Niger lors d'un assaut contre un poste de police à l'entrée nord de Niamey. Le pays est en proie à des incursions djihadistes récurrentes, mais c'est la première fois que des assaillants lancent une attaque aussi près de la capitale, là où nous retrouvons notre correspondant Abdulrazak Idrissa pour les détails.
Un communiqué du ministère de l'Intérieur diffusé à la mi-journée indique qu'il s'agit de 2 individus armés qui ont surpris les éléments de la police nationale en service au poste de contrôle de l'entrée nord-est de la capitale Niamey en venant de Wallam. Selon le bilan des autorités, 2 policiers ont été tués, 2 autres blessés. C'est la première fois qu'une attaque se produit aussi près de la capitale nigérienne où se tiendra dans 2 semaines exactement le sommet de l'Union africaine. Tout cela a bien évidemment fait monter les inquiétudes au sein de la population, surtout qu'au début de ce mois de juin, les autorités nigériennes ont annoncé avoir déjoué des attaques terroristes dans la ville de Niamey, près de l'aéroport notamment. Cette attaque du poste de contrôle d'hier mardi est aussi intervenue quelques heures seulement après une simulation d'opération antiterroriste organisée par les forces de sécurité locales, cela en prélude de la tenue du sommet de l'Union africaine. Une équipe de la police scientifique était sur les lieux de l'attaque le mercredi matin. Le ministère de l'Intérieur annonce que des mesures supplémentaires de sécurisation seront immédiatement mises en œuvre pour éviter de tels actes dans le futur. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Mali, l'attaque lundi contre 2 villages d'Ogon du centre du pays a été commise par des éléments peuls et a fait 41 morts selon un bilan porté à la hausse d'après un document interne de l'ONU faisant état par ailleurs de 5 soldats maliens la veille dans une embuscade. Parmi les victimes de la double attaque contre les villages de Yoro et Gangafani, 10 a été sommairement exécutée. C'est ce qu'a confié Abdoulaye Goro, un rescapé de ces attaques, à notre correspondant Kassim Traoré à Bamako.
Abdoulaye Goro partait à Dinangourou pour les funérailles de son père décédé la semaine passée. Il nous explique qu'ils ont été arrêtés par des hommes armés en pleine brousse en partance. Nous avons été arrêtés par des hommes en armes à 2 km du village de Yoro. Ils nous ont demandé nos pièces. C'est après qu'ils ont choisi ceux qui sont du village de Yoro et les ont exécutés devant nous. Après, ils ont libéré les restes des passagers de notre camion. Une fois arrivés au niveau du village de Yoro, nous avons constaté qu'il y avait des corps partout. À la question de savoir pourquoi les ravisseurs ont exécuté sommairement les ressortissants du village de Yoro, notre interlocuteur nous informe que ceux-ci les avaient dénoncés lors de la patrouille des militaires burkinabés et maliens dans le même village. Ainsi, ils ont décidé de faire la peau à tous ceux qui montrent leur base aux militaires maliens et burkinabés. Ce matin, les populations des plateaux d'Ogon nous ont informé qu'il y a une présence massive des militaires maliens dans plusieurs localités. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Centrafrique, alors que le pays fait encore face à la violence des groupes armés, la date des prochaines échéances électorales a été publiée ce mercredi par l'Autorité nationale des élections. Des scrutins groupés qui auront lieu fin 2020. À Bangui, pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
L'annonce a été faite dans un contexte de tension entre l'opposition et le pouvoir. Selon le calendrier publié par l'Autorité nationale des élections, le premier tour de la présidentielle et des législatives aura lieu le 27 décembre 2020, le second tour le 14 février 2021 et l'enregistrement des électeurs débutera en janvier 2020. Mi-juin, l'Observatoire national des élections craignait un probable glissement du calendrier, expliquant que le compte de l'Autorité nationale des élections, ANE, organise en charge de ces scrutins n'était alimenté par le gouvernement qu'à hauteur de plus de 500 millions de francs CFA, alors que le budget dépasse 24 milliards de francs CFA. Selon Julius Ngwadebaba, rapporteur de l'ANE, aucun montant n'est encore déposé sur le compte séquestre de l'institution, mais ces élections se tiendront comme prévu grâce à l'appui financier des partenaires. Ce chronogramme électoral est publié alors que la quasi-totalité du pays est encore contrôlée par des hommes armés. Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
Au Soudan, le chef du conseil militaire de transition au pouvoir, Abdel Fattah al-Burhan, appelle l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, à des négociations sans conditions. Les rapports entre les deux parties se sont envenimés depuis la dispersion sanglante d'un sit-in devant le QG de l'armée début juin. L'ambassadeur de Grande-Bretagne, de son côté, a estimé que les généraux doivent rapidement remettre le pouvoir à une administration civile s'ils veulent regagner la confiance perdue après la répression qui a fait des dizaines de morts le 3 juin. En Algérie, selon le parquet, les dossiers de 10 responsables de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika ont été transmis à la Cour suprême dans le cadre d'une enquête pour corruption. Parmi eux, celui de son ancien premier ministre, Ahmed Ouyaya, déjà incarcéré, et 3 de ses ministres. Kenya, la justice a reconnu 3 hommes coupables d'avoir aidé les auteurs de l'attaque contre l'université de Garissa en 2015, perpétrée par les islamistes somaliens Shebab, et qui avait fait 148 morts. Éthiopie, le maire d'Addis Abeba annonce l'interdiction des motos dans sa ville à compter du 7 juillet, une mesure destinée à enrayer une criminalité croissante dans la capitale éthiopienne. Une récente étude a montré qu'un nombre significatif d'activités criminelles commises dans la ville le sont à l'aide de motos, notamment des vols à l'arraché ou des braquages. Afrique du Sud, 2 concerts de Koffi Olomidé, star de la chanson congolaise, ont été annulés d'après des organisateurs. Une décision prise à la suite d'une campagne sur les réseaux sociaux contre l'artiste condamné en France à du sursis pour atteinte sexuelle.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le chef d'État turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé aujourd'hui que l'ancien président égyptien Mohamed Morsi avait été tué. Il impute la responsabilité de sa mort aux autorités égyptiennes. Dans le tribunal, il s'était tordu sur le sol pendant 20 minutes. Les autorités n'ont rien fait pour lui venir en aide. Il a été tué et n'est pas mort de cause naturelle, a dit M. Erdogan lors d'un meeting électoral à Istanbul. M. Erdogan, issu, comme M. Morsi, de la mouvance islamiste, l'avait qualifié de martyr après l'annonce de son décès lundi et accusé les tyrans au pouvoir en Égypte d'être responsables de sa mort. Une allusion au président Abdel Fattah al-Sissi. Affaire du meurtre de Jamal Khashoggi, Agnès Callamard, une experte des droits de l'homme de l'ONU, dit qu'il y a des preuves suffisantes pour ouvrir une enquête sur la responsabilité du prince héritier saoudien dans le meurtre du journaliste au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Elle réclame des sanctions ciblées et une enquête internationale. Les précisions de John Lindon.
Pendant 6 mois, Agnès Callamard, rapporteur spécial des Nations Unies, a enquêté sur cette affaire en se rendant notamment en Turquie. Pour elle, l'Arabie Saoudite est responsable de l'exécution extrajudiciaire du journaliste Jamal Khashoggi, tué en octobre 2018 au consulat saoudien à Istanbul. Selon elle, il y a suffisamment de preuves concernant la responsabilité du prince héritier saoudien. Cependant, elle exige une enquête supplémentaire dans son rapport final transmis ce mercredi aux médias. Comme tous les autres experts indépendants de l'ONU, il faut préciser que Mme Callamard ne s'exprime pas au nom des Nations Unies. Elle appelle aussi à la poursuite des sanctions imposées par plusieurs pays, dont les États-Unis, contre 17 individus pour leur rôle dans ce meurtre, mais estime qu'elles ne sont pas suffisantes car ne tenant pas compte de la chaîne de commandement. La Turquie a immédiatement appuyé les recommandations de Mme Callamard pour élucider le meurtre de Khashoggi et demander des comptes à ceux qui en sont responsables.
Des roquettes ont visé des bases militaires ou entreprises où sont basés des Américains à travers l'Irak à 6 reprises en moins d'une semaine. Et c'est ce qu'ont affirmé des responsables sur fond de tension entre les 2 grands alliés de Bagdad, Washington et Téhéran. Et ces tirs recensés depuis vendredi n'ont pas été revendiqués, mais l'Irak dit redouter depuis plusieurs semaines que les tensions entre l'Iran et les États-Unis dans le Golfe ne dégénèrent sur son sol. L'armée américaine a précisé mercredi aux Émirats arabes unis ses accusations contre l'Iran dans l'attaque du tanker japonais en assurant avoir récupéré des indices matériels et des empreintes qui démontrent selon elle l'implication de Téhéran. Le navire a été touché le 13 juin en mer d'Oman par une mini-ventouse semblable à celle utilisée par l'Iran, assure le US Navy. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
L'Américain Anadarko va investir 25 milliards de dollars dans l'exploitation de gisements offshore de gaz dans le nord du Mozambique. Avec des réserves estimées à 5 000 milliards de mètres cubes, le projet de gaz Dolphin Tuna fera du pays un important exportateur de gaz naturel liquéfié avec une capacité de production annuelle censée atteindre 12 millions de tonnes à partir de 2024. Dolphin Tuna permettra de doubler le PIB du Mozambique et de créer plus de 50 000 emplois. La République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement se sont engagés à créer des zones agricoles spéciales impliquant des investisseurs privés pour développer des milieux ruraux. Ces zones seront dotées d'infrastructures énergétiques, de transport et de communication pouvant favoriser la transformation locale des produits agricoles. Le but est de diversifier l'économie congolaise et de favoriser l'agro-industrie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour terminer, la future monnaie unique des 15 États de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont le lancement est programmé pour 2020, devrait s'appeler l'ECO. Elle remplacera le franc CFA et 7 autres devises nationales qui ne sont pas convertibles entre elles, ce qui ne facilite pas les échanges. La gestion de la monnaie de la CEDEAO devrait être confiée à une banque centrale fédérale et son taux de change devrait être flexible. Le Nigeria exige des pays de la zone franc une déconnexion du trésor français, le franc CFA étant arrimé à l'euro.
Et on enchaîne sur les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
La Côte d'Ivoire se rassure à 2 jours de la CAN.
Oui, les éléphants ont largement dominé les Chipolo Polo de la Zambie 4-1 en match amical à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. La Côte d'Ivoire restait sur une défaite 0-1 face à l'Ouganda samedi dernier, toujours à Abu Dhabi. Les buts ivoiriens ont été signés Jonathan Kodia, Jean-Michel Seri, Maxwell Cornet et Wilfried Bonny. La seule réalisation zambienne est l'œuvre de Feshon Sakala.
Le sélectionneur égyptien estime que les pharaons ont un très bon niveau.
Les Égyptiens ont atteint un très bon niveau malgré la pression de jouer la CAN à domicile, ont déclaré le sélectionneur Ravier Aguirre et le capitaine Ahmed El Mohamadi à 2 jours du match d'ouverture au Caire face au Zimbabwe. Le coach mexicain a souligné que Mohamed Salah est un joueur parmi les 23 de la sélection égyptienne, même s'il reconnaît l'apport de la star de Premier League, victorieuse de la Ligue des Champions avec son club de Liverpool. Les pharaons comptent le plus grand nombre de victoires dans l'histoire de la plus importante compétition sportive africaine. Avec leurs 7 titres, ils font figure de favoris.
Neymar manquera les 3 prochains matchs de Ligue des Champions.
L'instance disciplinaire de l'UEFA a rejeté l'appel déposé par le Paris Saint-Germain. L'attaquant vedette avait été puni pour avoir insulté les arbitres du 8e de finale retour en Ligue des Champions entre son équipe et Manchester United. Le 6 mars dernier, après le match perdu par le PSG, Neymar a laissé exploser sa colère sur les réseaux sociaux, visant les arbitres à la suite du pénalty accordé aux Anglais dans les dernières minutes de la rencontre. Après recours à la VAR, déjà blessé à l'époque, l'ex-capitaine de la Seleção a écrit sur Instagram, je cite, c'est une honte, ils mettent 4 gars qui ne comprennent rien au foot pour revoir le ralenti. Le 25 avril dernier, la commission de discipline a infligé à Neymar 3 matchs de suspension dans les compétitions UEFA.
Et Ferland Mendy dit être honoré de rejoindre le Real Madrid.
Je suis très honoré d'être dans ce club, le plus grand club du monde. Merci au président pour sa confiance. Merci au club, a déclaré le latéral international français de 24 ans lors de sa présentation au Santiago Bernabéu. Formé au PSG, passé par le Havre et Lyon, Ferland Mendy a été transféré au Real Madrid pour 48 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Il a signé pour 6 ans jusqu'en 2025 sous les ordres de son compatriote Zinedine Zidane à Madrid. Le latéral aux 4 sélections en équipe de France devra faire son trou au sein d'un effectif riche en stars où son concurrent direct devrait être le Brésilien Marcelo, vice-capitaine de l'effectif.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. En Mauritanie, la campagne pour l'élection présidentielle du samedi 22 bat son plein. C'est la dernière ligne droite. Le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, ne se représente pas, mais il bat campagne pour le chef de l'armée et promet de jouer un rôle politique dans ou en dehors de la présidence. Ahmed Diop, rédacteur en chef du journal Al Akhbar, au micro d'Idriss Fall.
Les candidats ont pris l'assaut de toute façon Nouakchott et les autres villes du pays, à l'intérieur bien sûr du pays. Ils ont fait que d'ailleurs la dernière ligne droite, ce sera vendredi ou jeudi soir.
Phénomène paradoxal, Mohamed Ould Abdelaziz qui n'est pas candidat, lui il bat campagne aussi.
Oui, Mohamed Ould Abdelaziz, il est vraiment présent dans cette campagne dès le début. Il avait déjà annoncé son soutien du candidat du pouvoir, en l'occurrence l'ex-patron de l'armée, Mohamed Ould Ghazouani. Et lors de l'ouverture de campagne, il avait assisté à son meeting, il avait vraiment appelé à ce qu'on vote pour lui. Hier encore, il a réitéré cela en demandant de le soutenir, mais ce qu'il a ajouté un peu qui fait le débat dans la presse, c'est qu'il dit qu'il va continuer ses projets économiques et politiques dans la présidence et en dehors de la présidence. Ça veut dire qu'il avait déjà dit que lui, même s'il va quitter le pouvoir, il va rester dans le pouvoir en même temps.
Mais ce n'est pas un scénario à la russe.
Beaucoup craignaient cela, mais après, il y avait un peu des rumeurs, de bruit entre les deux candidats. Mais à la fin, on a su qu'un petit peu, il y avait vraiment un rapprochement et que la campagne électorale l'a démontré. Et l'opposition, bien sûr, continue à dénoncer cela. Certains même disent que le candidat Mohamed Ould Ghazouani, c'est simplement Ould Abdelaziz en cagoule.
Qu'en est-il des autres, notamment Ould Mouloud, le candidat soutenu par Tawassoul, Biramda Abeid?
Il n'y a pas de sondage officiel, mais il y a par-ci, par-cela, quelques médias qui font des sondages. Mais la plupart des sondages, on voit qu'il y a trois candidats vraiment qui sortent du lot. C'est Mohamed Ould Ghazouani, l'ex-patron donc de l'armée. C'est l'ancien premier ministre Sid Mohamed Ould Boubacar, mais également Biramda Abeid. Donc ce sont vraiment ces gens-là. Ceux qui spéculent sur un probable deuxième tour disent que si ça allait avoir lieu, ce serait entre Ghazouani et l'un de ces deux derniers cités, c'est-à-dire Sid Mohamed Ould Boubacar ou bien Biramda Abeid. Bon, Ould Mouloud, c'est un opposant historique. Il s'est opposé surtout au régime d'Ould Abdelaziz depuis très longtemps. Son problème, c'est qu'il est rentré dans la course un peu tard et qu'après l'échec de l'opposition dans sa recherche d'une candidature unique. Donc c'est un tout petit peu une candidature qui n'a pas été très préparée d'avance.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La campagne électorale pour le scrutin du 30 juin se poursuit au Togo. Les élections locales, après plus de trois décennies d'interruption, rencontrent un fort engagement de la part de la jeunesse togolaise. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Le Togo se prépare aux premières élections locales de son histoire depuis 1987. En 32 ans, la gouvernance locale a été reléguée au second rang, affectant le développement effectif à la base. C'est le constat fait par la jeune candidate Liz Djamié qui affirme avoir des recettes pour sa commune.
Quand je vois par exemple dans ma commune qu'il n'y a pas de structure de santé de ce nom qui puisse accueillir des accidentés rapidement, quand je vois par exemple que des personnes meurent des fois juste par faute des premiers soins, quand on voit dans sa localité des populations qui à la moindre pluie ont les pieds dans l'eau parce que peut-être les bassins de rétention, les caniveaux ne sont pas entretenus. Quand on voit plein de défis dans sa localité et qu'on en a des solutions dans sa tête, mais parce qu'on n'a pas le pouvoir public pour le faire, quand vient cette opportunité, on la saisit.
Pour Ama Sovi Adjanké, candidat dans la commune d'Amoutievé, ces locales sont une opportunité pour les communautés à la base de prendre leurs responsabilités.
Ces élections locales sont pour nous une occasion de faire bouger les choses. Mais devons-nous attendre l'alternance pour voir nos communautés évoluer Je ne pense pas. C'est pour cela que nous avons décidé de participer à ces élections en vue de faire bouger les lignes.
Ils sont nombreux, ces jeunes Togolais dont l'âge est compris entre 25 et 40 ans, à s'être engagés pour ces élections. De jeunes candidats qui n'ont jamais vécu l'expérience d'une élection locale, mais qui se projettent. Le manque d'alternance au sein des formations politiques explique entre autres cet engouement de la jeunesse, analyse Urobosi Chakondo du Centre d'observation et de promotion de l'état de droit, COPED.
Au niveau de la classe politique togolaise, de l'opposition comme de la majorité, il n'y a pas eu l'alternance qui favorise l'implication des jeunes dans la vie des partis politiques, donc dans la gestion de la cité. Donc ces jeunes voudraient quand même, à un moment donné, essayer de jouer un rôle important et puis faire en sorte qu'ils soient une jeunesse responsable de leur devenir.
Évidemment, c'est cette quête de rajeunir la classe politique togolaise qui sous-tend l'engagement du mouvement Bâtir, dont Delali Ahianou est candidate dans la commune d'Agouet 3.
Ma candidature pour cette élection locale ne serait que preuve de ma bonne foi pour le développement de ma commune. Nous avons une vision et notre vision, c'est de travailler en union et surtout avec les jeunes.
Le scrutin est prévu pour le 30 juin prochain. Kailasson, Lomé, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, zoom sur la situation des réfugiés dans le monde à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée le 20 juin de chaque année. Plus de 25 millions de personnes sont forcées de quitter leur pays pour s'installer dans un autre. Les guerres, les violences et la persécution sont les principales causes de ces déplacements de population constitués pour une bonne partie de jeunes et de femmes. Leurs conditions de vie dans les camps, leur insertion dans leur pays d'accueil, leur prise en charge, ce sont autant de questions que nous aborderons avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de VOA Afrique.
Le 19 juin 1865, les esclaves du Texas ont finalement appris qu'ils étaient libres, plus de deux ans après la signature par le président Abraham Lincoln de la proclamation d'émancipation qui libérait tous les esclaves des États-Unis qui s'étaient révoltés durant la guerre de sécession. Depuis, chaque 19 juin, les Afro-Américains des quatre coins du pays célèbrent la fin de l'esclavage aux États-Unis. Jesus Semen Oni est allé à la rencontre des personnes prenant part aux festivités, Dilidico raconte.
Oui, mon nom c'est Marcelo Kalouba. Je suis avec ma femme et mon enfant de 9 mois. Moi, je viens de Kinshasa. On avait fui à partir de l'Angola. On a passé de Vindouké, de Namibie, on a passé par ici. Je me suis retrouvé à partir de l'Équateur.
C'est une tradition estivale avec de la musique, des parades et des performances artistiques. Une commémoration du jour ayant marqué la fin des 246 années d'esclavage aux États-Unis. Greg Carr de Howard University à Washington nous en dit plus.
Le 19 juin 1865, le général Gordon Granger, un général de l'armée responsable du district, le district d'émancipation qui comprenait le Texas, a atterri à Galveston, au Texas, Galveston Bay plus précisément, pour lire une déclaration annonçant que les esclaves africains étaient libres.
Surnommée Juneteenth ou Journée de la Liberté, le 19 juin est désormais considéré comme un jour férié dans 45 États américains. Pour de nombreux Afro-Américains, c'est une journée de réflexion sur leur parcours, leur succès et la poursuite de la lutte pour l'égalité raciale. Écoutons Andra Gillespie de Emory University à Atlanta.
Cela nous aide à comprendre et à expliquer pourquoi les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui. J'aurais clairement préféré que l'Amérique n'ait jamais eu un passé esclavagiste, mais le fait est que c'était bien le cas et les effets de l'esclavage se font encore sentir dans la société américaine d'aujourd'hui. Nous savons donc d'où nous venons et j'espère que nous apprendrons à ne pas répéter les erreurs du passé.
Les festivités incluent des concerts et des réunions de famille, mais le plus important est la préservation de l'histoire ancestrale, selon Floyd Cooper, dessinateur du livre d'illustration Juneteenth for Maisie.
C'est un jour de communion. Les anciens de la famille racontent des histoires aux plus jeunes. Ils racontent l'histoire de leur famille, l'histoire des Afro-Américains. C'est une sorte d'héritage relatant l'expérience afro-américaine à travers l'histoire des familles.
C'est la nécessité de pérenniser cet héritage qui a conduit Kizzy Calhoun à faire participer son fils à la parade de Juneteenth à San Antonio. Kizzy nous explique ses motivations. Nous nous focalisons sur ce que nous devons réaliser dans le futur, mais nous devons regarder en arrière pour nous rappeler d'où nous venons afin de réussir dans l'avenir. Cette année, Juneteenth coïncide avec la première audience du Congrès depuis plus de 10 ans sur les réparations suite à l'esclavage. Les activistes poussent les législateurs à demander des réparations pour les descendants des esclaves. Alors que les Afro-Américains continuent d'évaluer les conséquences à long terme de l'esclavage, Juneteenth rappelle qu'il est important de célébrer ce pas de la nation vers la liberté pour tous.
Marcelo a 27 ans, il est un migrant originaire de la RDC. Il fait partie de ceux qui ont choisi de passer par l'Amérique centrale et le Mexique pour atteindre les États-Unis. Arzuma Compaoré l'a rencontré dans le cadre de notre série intitulée « Témoignages d'immigrants ».
Oui, mon nom c'est Marcelo Kalouba. Je suis avec ma femme et mon enfant de 9 mois. Moi, je viens de Kinshasa. On avait fui à partir de l'Angola. On a passé de Vindouk, de Namibie, on a passé par ici. Je me suis retrouvé à partir de l'Équateur par avion. Et puis l'Équateur, j'ai fait la route avec les gens qu'on était nombreux d'autres nationalités. On a traversé la forêt et de l'Équateur, on a passé de Colombie, Panama, jusqu'on a trouvé d'autres chemins pour arriver ici. On passait les morts. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. S'il y a quelqu'un qui meurt, on allait faire quoi? On crée seulement les trous, on les met et puis les gens continuent la route. Il y a des amis qui ont laissé leurs femmes là-bas. Il y a aussi des bandits au cours de la route. Si tu ne donnes pas l'argent, tu risques de perdre sa vie. Le long de la rivière, de la forêt équatoriale et forêt d'Ariane. Là-bas, ça se trouvait une rivière là-bas. Alors, au-dessus des rivières, ça a des pierres. On traversait pour aller de l'autre côté. Ma femme était tombée dans l'eau. Elle était avec mon enfant au dos. Elle a glissé. Il est tombé avec l'enfant. J'avais cru qu'il allait mourir ou l'enfant pouvait mourir. Ça s'est passé presque 2 semaines. Mon enfant tombe malade, les fièvres, il y a diarrhée. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de l'aide. Quand on est arrivé là-bas au Panama, la vie s'améliorait un peu parce qu'il y avait l'aide des médicaments, l'aide de tout qu'on sort là.
Vous arrivez au Mexique, comment ça se passe?
Il y a beaucoup de familles ici qui étaient avant nous. Je me suis retrouvé là-bas à Acuna. Il y avait des gens qui traversaient la rivière. Moi aussi, j'avais pas le choix parce que au Mexique, il n'y a pas d'aide médicale. On me parlait souvent que si tu traverses là-bas, à l'États-Unis, on aura de l'aide médicale. Et pour cela, j'avais pas traîné beaucoup de temps parce que j'ai risqué de perdre ma fille. Et pour cela, on a traversé dans cette rivière là-bas à Acuna.
Après avoir traversé, vous êtes arrivé du côté des États-Unis. Qu'est-ce que l'immigration américaine vous a dit?
Elle nous a accueillis, elle nous a donné à boire de l'eau, elle nous a pas menacés. Ils ont enregistré les gens, ils ont donné les papiers pour arriver jusqu'ici à Saint-Antonio. Mais moi, je n'ai pas la famille ici, je ne connais pas l'anglais. Et pour cela, on avait choisi les mêmes. On est coincé ici parce qu'on manque l'argent du transport pour arriver là-bas aux mêmes.
Mais est-ce que vous avez reçu de l'aide de la ville de Saint-Antonio?
Actuellement, on dort dans l'église là. C'est seulement l'aide de Saint-Antonio. On mange là-bas.
Vous êtes prêt à recommencer la même chose?
Je ne peux pas recommencer parce que c'est difficile. On a passé des moments très difficiles là-bas.
Vos jeunes frères qui sont toujours à Kinshasa, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire?
Ce que je peux leur parler, je ne suis pas mort, je suis en vie, moi et toute la famille. Qu'ils gardent confiance en Dieu. Merci pour les prières qu'ils m'ont rendues. Pour cela, je suis en vie. Je suis dans les lieux très bons. Je sais que Dieu va faire pour avoir aussi les papiers ici à l'États-Unis.
Quel est votre plus grand rêve là aujourd'hui maintenant?
Et prendre les papiers. Vivre et errer comme tout le monde qui vit ici. Mon rêve le plus important, c'est ça.
Voilà, témoignage recueilli par Arzuma Compaoré. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Cheikh Thiérot, à la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
bienvenue à bord.